expert Jean Turmel, c'est ce qui pousse justement les sociétés américaines vers le marché financier européen.
Il a suffi de lui poser la question.
C'est moins vrai maintenant, mais un des facteurs importants dans le temps, c'était la rapidité avec laquelle il pouvait contracter un emprunt, alors qu'aux États-Unis, il devait faire un enregistrement de prospectus auprès de la Commission des valeurs mobilières. Alors, il était facile, à quelques jours d'avis, de contracter un emprunt. Les taux, en général, étaient de temps à autre, ou assez régulièrement même, moins élevés que ceux qu'ils auraient pu obtenir dans le marché domestique et dans le marché américain.
Mais qu'est-ce qui amenait les investisseurs étrangers à accepter des conditions qui sont moins avantageuses que celles que l'on retrouve sur le marché américain, d'accepter, je sais pas moi, une obligation qui rapporte un intérêt qui est de 1,5%, voire même des fois, c'est exceptionnel, mais 1% inférieur aux taux qui sont payés aux investisseurs américains?
Deux facteurs importants. Le premier était le fait que la plupart des investisseurs étrangers auraient été frappés d'une taxe de non-résident sur les intérêts gagnés pour leurs investissements qu'ils avaient été faits directement aux États-Unis. C'est deuxièmement, les investisseurs européens surtout, et même asiatiques, adorent l'anonymat du marché euro dollar, dans le sens que les obligations dans le marché euro dollar sont émises tous au porteur en petites coupures, donc sont facilement transportables, mais sont très anonymes, alors qu'aux États-Unis, plusieurs des obligations sont enregistrées.
Mais le fait d'investir dans des dollars américains, est-ce que c'est pas aussi une prime additionnelle? Est-ce que ça vient pas augmenter le rendement de ces sociétés-là?
À ce moment-ci, ou dans depuis quelques années, c'est un fait que la combinaison d'un taux de rendement, un coupon ou un taux d'intérêt très élevé ou plus élevé que ceux qu'il aurait pu obtenir en d'autres monnaies comme le yen, le marque et le suisse, et l'appréciation du dollar américain a fait que les possesseurs ou les acheteurs d'obligations euro-dollar ont réalisé des gains, du moins sur papier, très très importants. Ce n'était pas nécessairement le cas dans les années 75 à 80, où le dollar américain, à ce moment-là, comme si vous le souvenez, était excessivement faible.
Yvon, il est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on a une idée des effets de la suppression de ce genre de taxes?
Les effets seront multiples. D'abord, les investisseurs étrangers pourront acheter leurs obligations sur le marché américain même et obtenir des intérêts plus élevés que s'ils continuaient à faire leurs achats sur le marché des euro-dollars. Et deuxièmement, ils pourront investir dans toute la gamme des obligations, municipalités, corporations et bien entendu le Trésor fédéral, qui à lui seul espère récolter un 5 à 15 milliards additionnels auprès des étrangers dans les 12 prochains mois. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps.
Quand même, Yvon, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est ce que vous me dites. Pour une fois, les États-Unis veulent faire profiter le monde de leur largesse. En fait, une fois, c'est pas coutume, remarquez, mais c'est tellement beau, vous allez me faire pleurer.
Vous avez bien raison d'être pyrrhonien, enfin je veux dire sceptique. Un des risques que le Canada court avec d'autres pays est celui d'une fuite accélérée des capitaux.
Les pays qui ont des marchés de capitaux internes moins importants que ceux des États-Unis, ce qui est quasi la majorité des autres pays, auront à ce moment-là une certaine l'attrait d'un investissement en fonds US deviendra plus important, ou ça deviendra plus attrayant d'investir dans un fonds US que d'un titre en yens ou en marque.
Donc, il y a un risque de fuite de capitaux du Canada vers les États-Unis, de la France vers les États-Unis.
Il y a d'autres réglementations au Canada, où à savoir pas plus que 10% des actifs des fonds de pension canadiens peuvent être investis dans des véhicules de placement étrangers. Ça, cette restriction-là demeure. Alors, il y a une certaine limite à ce que la fuite des capitaux canadiens vers les États-Unis. Considérant aussi le fait que la plupart des fonds de pension canadiens gardent leurs 10% qui leur est alloué pour être actifs dans le marché des actions américaines, plus que les obligations. Alors, l'effet, dans ce sens-là, ne sont pas aussi grands qu'on peut croire pour le Canada.
Est-ce qu'il est possible de mesurer l'effet que la suppression de la taxe aura sur la valeur du dollar américain?
La quantifier semble très, très difficile. Au point de vue tendanciel, ça sera sûrement de nature à faire augmenter la valeur, du moins temporairement, du dollar américain, jusqu'à ce que les capitaux qu'il y avait à fuir vers les États-Unis se soient exécutés. Qu'on ait effectivement transféré ce qu'on avait à transférer vers les États-Unis.
Bien que désagréable, ces effets de la suppression de la taxe de 30% ne sont peut-être que passagers. Va pour nous, mais à Londres, il doit bien se trouver quelques courtiers européens qui devront s'accommoder de manière permanente d'une diminution de leurs activités parce que les grandes sociétés américaines n'auront plus autant besoin de leurs services.
Vous avez sûrement remarqué que l'évolution des deux ou trois dernières années, c'est qu'une grande partie du marché londonien était devenue de plus en plus dans les mains de courtiers américains ou de banques américaines. Alors, la tendance vers les États-Unis était quand même amorcée depuis quelques temps. Ça se continuera. C'est un fait que les courtiers américains et les banques américaines pourront gagner quelque peu.
Encore là, il n'est pas possible de chiffrer avec précision ce que les marchés européens vont perdre, mais ça pourrait être important parce que les compagnies américaines représentent 25%, le quart de toutes les obligations achetées sur le marché des eurodollars.
Alors, ce sera donc la guerre entre Londres et New York pour obtenir les contrats d'émission obligatoire, parce qu'évidemment, l'enjeu est des plus importants. Et puis, on va avoir droit, en quelque sorte, à une nouvelle version de la guerre d'indépendance. Nos auditeurs réguliers se rappellent qu'au cours de l'été 82 et de l'été 83, Gilles Paquet avait interviewé un certain nombre d'économistes québécois. Question de tracer à gros traits l'évolution de la science économique au Québec dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Cet été, notre collègue a décidé de compléter le portrait en nous présentant une mini-série, quatre vignettes d'économistes néo-québécois, néo-canadiens, dont l'activité au cours du dernier quart de siècle a laissé des traces profondes dans la pensée économique québécoise. Un Belge, un Polonais, un Syrien et un Grec. Quatre, évidemment, c'est trop peu pour rendre justice à tous les artisans venus d'outre-frontières, mais c'est suffisant peut-être pour montrer l'importance de cette contribution, son impact sur la pensée économique et sur les institutions économiques au Québec. Le troisième de ces quatre économistes néo-québécois, c'est M. Antoine Ayoub, qui a fait carrière à l'Université Laval à Québec.
Antoine Ayoub est né à Alep, en Syrie, en 1936. Après des études de droit et de sciences économiques à Damas, en Syrie, puis à Paris, il va commencer sa carrière d'enseignant en Syrie, où il va fonder une faculté de sciences économiques, à Alep, justement. Ce n'est que dans les années 60 qu'il quitte la Syrie, s'arrête un an en France, puis vient enseigner à l'Université Laval en 1969. À Laval, Antoine Ayoub va créer, dans le début des années 70, le GREEN. Le GREEN, c'est le groupe de recherche en économie de l'énergie, un centre d'excellence dans l'étude de l'énergie et des ressources naturelles au Québec. Ce qui définit Antoine Ayoub, ce sont des perspectives larges. Pour lui, la science économique ne doit pas devenir une science de la gestion. Ça doit demeurer une science humaine, une science sociale. Cependant, il va vouloir enraciner cette approche globale qu'il a dans une connaissance approfondie d'un secteur fondamental. L'énergie, le pétrole, les ressources naturelles. C'est de là que ces travaux tirent à la fois une grande ampleur de vue, tout en étant précis, bien définis et pratiques. Antoine Ayoub, c'est aussi, au sens le meilleur du terme, un entrepreneur. Il a été l'architecte, le constructeur du GREEN, mais il a aussi été celui qui a créé la tradition de colloques internationaux d'économie pétrolière au Québec. Québec, terrain neutre, forum où depuis plus de 10 ans, se rencontrent les experts et les politiques de pays tant producteurs que consommateurs de pétrole. Monsieur Ayoub, bon après-midi d'abord. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène dans votre Syrie natale à développer cette approche ample à la science économique, à développer cet intérêt pour l'économie au sens large, pour l'économie politique?
D'abord, l'influence déterminante d'un prof que j'appelle un prof de multiple splendeur, ou à multiple splendeur, en secondaire, figurez-vous. Quand je faisais mes études secondaires en Syrie, c'était un prof qui venait de débarquer de Paris, et qui était tout aussi bon en philosophie qu'en mathématiques, qu'en littérature, qu'en langue française, et il nous a enseigné tout cela, en même temps et alternativement. Je dis en même temps parce que quand il rentrait en cours, par exemple, pour nous expliquer les mathématiques, et si quelqu'un lui posait une question concernant la philosophie, eh bien, il nous parlait de Spinoza, et cela durait pendant une semaine. Alors, on l'a appelé un professeur à la semaine, dans le sens pas péjoratif, mais on avait une semaine Baudelaire, une semaine les équations différentielles, une autre semaine Spinoza, une troisième semaine la prière d'Esther, de Racine. Alors, il m'a donné beaucoup le goût un peu dangereux d'être, non pas multidisciplinaire, mais ça va être prétentieux ce que je dis, mais être cultivé ou tenter d'être cultivé, c'est-à-dire aussi à multiple splendeur.
Vous allez ensuite suivre la filière, remonter vers Paris et faire vos études en France. Pourquoi la France?
Ce monsieur nous a tellement parlé, monsieur Coussa, Georges Coussa, et il nous a tellement parlé de la France que je connaissais Paris disons Paris, connaissait le quartier latin avant d'aller y habiter pendant 4 ou 5 ans. Alors il y a ça qui m'a incité à aller à Paris. Il y a effectivement la langue aussi qui a joué. C'est que j'avais pratiquement deux langues maternelles, et l'arabe et le français. Alors il était plus ou moins normal d'aller en France, ce que j'ai fait à Paris.
Fin des années 50, début 60, vous êtes donc à Paris en train de faire des études de sciences économiques. Est-ce que à Paris, des économistes vont vous influencer plus particulièrement et aider un peu à donner une direction générale à vos travaux, à vos intérêts?
Quelqu'un qui m'a influencé, c'est mon maître qui a dirigé ma thèse, c'est Maurice Billet.
Sur quel thème avaient porté vos travaux de thèse?
Eh bien, là, il y a une petite anecdote, vous permettez de la raconter. C'est que un jour, au quartier latin, j'étais devant une librairie, et puis, par accident, j'avais un peu d'argent en supplément. Et alors, je vois effectivement plusieurs livres à la librairie Médicis de Marie-Thérèse Génin. Je vois un ouvrage portant sur les prix du pétrole brut par un certain monsieur Laudrin. Alors, à l'époque, et il est resté cet ouvrage pendant au moins 10 ans, un ouvrage de référence en français, très bien écrit, très bien charpenté, techniquement valable. Je l'achète et je rentre chez moi. Je le lis et je trouve que la question m'intéresse d'approfondir tel ou tel aspect et peut-être éventuellement faire de ça une thèse de doctorat. Comme je suis un peu expansif et pas cachotier, je parle à mes copains de ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire éventuellement faire ma thèse qui porterait sur l'économie pétrolière. Alors, il y a un de ses copains m'a chipé le sujet, tout bonnement. Et en France, il fallait aller inscrire le sujet. Et quand j'y vais pour inscrire mon sujet, le sujet était déjà chipé, inscrit. Alors, bon, j'ai revisé un peu mon sujet et je l'ai porté, à l'époque, je rentrais en Syrie après mes études, je l'ai porté sur une question brûlante en Syrie à l'époque, c'était la réforme agraire, ce qui m'a amené de proche en proche, bien entendu, de voir un peu la théorie des ressources naturelles, la terre, et de travailler sur la rente. Je suis rentré en Syrie, pas nécessairement, au moins au début, j'avais pas des idées bien arrêtées comme quoi je deviendrais prof d'université. Mais un jour, j'étais en Syrie et le doyen de la faculté de droit me téléphone et me dit « passe me voir ». Alors je passe le voir, il me dit « je sais que tu viens de débarquer de France et je te mets au défi de donner des cours d'économie chez nous ». Alors bon, j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai commencé à donner des cours à la faculté de droit, des cours d'économie, qui ont eu l'heure de plaire, et que moi j'ai pris effectivement goût à cela. Et voilà, de fil en aiguille, j'y suis resté, et puis j'ai même fondé la faculté de sciences économiques là-bas.
On est au milieu des années 60. Vous décidez de tout quitter pour venir au Québec, au Canada.
Comme toujours, dans ces cas-là, il y a plusieurs facteurs qui ont joué en même temps et ensemble. Quand on m'a mis au défi, là aussi, ce n'est pas une anecdote, je rentre d'un congrès en France, et puis la secrétaire me dit, le ministre passé pendant votre absence, et puis il vous demande d'aller tout de suite à Damas. Alors je vais à Damas. Et puis là, il me dit, très bien, pendant votre absence, on a décidé de créer la faculté de sciences économiques et de vous nommer le doyen de cette faculté. Voilà le décret du président de la République en deux articles seulement. Alors, bien sûr, j'étais pas préparé, mais c'était là aussi un défi. Et puis, il y a eu pression. Alors bon, avec l'aide de mes autres collègues, et ils étaient vraiment, m'ont aidé beaucoup, on a monté une faculté qu'on a souhaité, que cette faculté soit une faculté au niveau respectable, je dirais. Mais le problème, et ça c'est une réponse à ce que vous posez, c'est pas tout. Le problème, c'est que la pression, si vous voulez, du système de l'enseignement ne pouvait pas permettre un élitisme ou, un autre mot pour dire la même chose, une sélection drastique à l'entrée d'une telle faculté, ce que nous souhaitions et ce que j'ai pu maintenir contre vent et marée pendant 2 ans, mais j'ai pas pu, je devais céder ou céder la place, ou céder sur mes opinions, j'ai cédé la place. François Perrault m'a invité à venir à l'ISEA. Mais simultanément, j'étais à l'Université de Paris, mais j'avais mon bureau de recherche à l'ISEA. J'ai présenté ma candidature à l'université là-bas, mais tout en restant à Paris. Et le doyen de l'époque, lors d'un de ses voyages, me téléphone à l'ISEA et me dit « je souhaiterais vous voir ». Justement, il cherchait un prof qui voudrait travailler sur l'économie de développement, l'économie des pays en voie de développement. Puis il m'a dit « bon, je rentre à Québec et puis je vous enverrai le résultat ». Puis je suis venu, et bien je suis là depuis 15 ans.
Monsieur Ayoub, l'économie du développement, l'étude du développement ne vous a pas retenu. Vous avez en essence dérivé vers autre chose. Qu'est-ce qui vous fait abandonner l'économie du développement?
On ne peut pas comprendre l'économie si on ne comprend pas d'abord et avant tout un secteur d'une manière très approfondie, un secteur de l'économie très approfondie, n'est-ce pas? Parce que cela vous mène à faire le travail du bénédictin, c'est-à-dire le travail de défrichement de chaque jour pour connaître les tenants et les aboutissements d'un secteur. Cherchez n'importe quel secteur, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie ou que ce soit un autre secteur, et vous verrez défiler devant vous toute la théorie économique. Et c'est ce que j'ai tenté de faire.
L'énergie étant le secteur que vous avez décidé de privilégier.
C'est ça. Retour à l'anecdote que je vous ai dit, à la frustration concernant ma thèse qui a été chippée.
Vous vous attachez à étudier l'économie pétrolière, l'énergie, avant que ça devienne populaire, avant que ça devienne à la mode, puisque dès 71, j'ai vu numéro spécial de la revue Études internationales sur ces problèmes de pétrole que vous aviez orchestrés. Qu'est-ce qui a déclenché au Québec, dans un monde où on ne parlait pas beaucoup d'énergie, cet intérêt pour l'énergie et le pétrole?
À prime abord et au départ, c'était peut-être de la folie pure. C'est-à-dire, il est vrai, il faut être honnête de le dire, que s'il n'y avait pas eu, en 73, tout ce qu'on a vécu, concernant la crise pétrolière et la crise de l'énergie. Et là, le Québec s'est senti effectivement concerné directement parce que c'est un pays importateur essentiellement d'énergie pétrole. Alors, c'est cela qui a un peu donné le facteur qui a permis, si vous voulez, le développement sur le plan institutionnel. Hein. Mais sur le plan personnel, la réponse à cela, que j'aurais pu continuer bien entendu, dans ce secteur-là, mais sans que cela ait un écho, si vous voulez, dans la société ambiante. Mais la société ambiante a reçu cela parce que ça répondait à des intérêts et à des interrogations qui se posaient durant les 10 dernières années.
73, c'est l'année du grand choc pétrolier. Vous allez pouvoir, monsieur Ayoub, institutionnaliser vos intérêts pour la chose énergétique, pour les problèmes pétroliers, en créant Green,
c'est un groupe de recherche en économie de l'énergie. Bernard Cloutier, qui était à l'époque président de SOCIP, connaissant ce que je fais, et bien SOCIP s'intéressant au pétrole, m'a dit un jour, en rentrant de voyage d'Algérie et assistant à un congrès là-bas, m'a dit « Écoute Antoine, pourquoi on ne ferait pas ici à Québec un colloque portant sur l'économie pétrolière ?» Ma première réaction était de lui dire, mais tu es complètement fou, parce que quand même, après tout, Québec, ce n'est pas ni Paris, ni Londres, ni Houston, ni Genève. Eh bien, on a continué à discuter sur ce projet, et le projet, au début, enfin le premier colloque, était parfaitement artisanal, dans le sens que, bien sûr, le choix des conférenciers était très strict et très important, et on a eu des conférenciers intéressant, mais on ne savait pas si on aurait du public ou pas. Chose très curieuse, on a eu 400 personnes.
C'était
juste avant la crise de 73, 4 mois avant 73. comme les conférenciers et nous, on était vraiment au courant de ce qui se produisait, ben on n'avait pas froid aux yeux de pronostiquer la prochaine hausse des prix. Il y a eu unanimité entre les conférenciers, moi-même, que effectivement il peut y avoir hausse des prix, et on a même chiffré ces hausses-là. Alors, effectivement, suite à cela, il y a eu la crise, le premier choc pétrolier, et puis effectivement, un soir, avec trois de mes assistants, on était, moi et eux, on a dit, bon, ben, on va mettre un sigle, et ce sigle-là va être le groupe de recherche en économie de l'énergie, le Green. Depuis, c'est-à-dire depuis 73, aujourd'hui on est 7 professeurs, et il y a en permanence 12 à 15 étudiants qui sont des assistants, soit en maîtrise, soit en doctorat, qui gravitent autour de nous. Et le sujet lui-même a énormément évolué. Ce n'est plus seulement le pétrole, c'est dépassé. C'est-à-dire on s'est occupé du gaz, de l'électricité, et puis surtout de la théorie des ressources naturelles en général.
Est-ce que on peut dire, après 10 ans d'existence du Green, que ces travaux ont laissé des traces?
La réponse est oui, qu'elle a laissé des traces. Il est évident que depuis 10 ans, il y a eu pas moins de 25 à 30 maîtrises et doctorats qui ont été produites sur ces sujets, et donc il y a des gens qui ont été formés comme économistes et comme économistes de l'énergie. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi, entre autres, que les deux paliers du gouvernement, disons le gouvernement fédéral, nous a donné une subvention quinquennale sur 5 ans pour la formation et l'infrastructure de notre centre. De la même manière, le grand projet FCAC Équipe, nous l'avons obtenu l'année dernière pour 3 ans. Bon, pour vous dire que, et puis dans les deux cas, on était jugés sur nos travaux. Il y a un troisième point de l'impact de l'influence, c'est sur le plan de la politique énergétique. Et alors là, effectivement, que ce soit par les commissions parlementaires où on était, que ce soit aussi chacun de nous, de nous du groupe, par ses implications extra-universitaires, dans mon cas SOKIP, dans d'autres cas Hydro-Québec, ou auprès du gouvernement fédéral, par exemple, on s'est connu que moi-même je n'étais pas d'accord avec la politique du programme énergétique national, et je l'ai dit. Tout ça. Et puis là, petit à petit, on s'achemine vers éventuellement peut-être la suppression de ce programme. Eh bien, voilà un ensemble de facteurs, d'indices, si vous voulez, pour vous dire que, bien, on n'a pas brassé du vent pendant ces 10 ans, et on ne compte pas brasser du vent pour les années à venir.
Est-ce qu'il n'est pas surprenant, M. Ayoub, que dans un pays qui a vécu depuis ses origines de ressources naturelles, il ait fallu que quelqu'un nous arrive de Syrie pour créer un centre de recherche sur les ressources naturelles au Québec?
Oui, mais ne me donnez pas, enfin, cette gloire que je ne mérite pas. Je vous le dis très simplement. Tout simplement, encore une fois, ce sont des coïncidences qui mènent la vie. Ce n'est pas des choses préétablies d'avance. Mais il est vrai que moi-même, je me suis posé la question, comment se fait-il, la même question que vous posez, comment se fait-il que le Québec vivant sur les ressources naturelles, le Canada, immense, vivant sur les ressources naturelles, il n'y a pas eu un centre. Mais, à ma satisfaction, et à la vôtre certainement, je peux vous indiquer une chose, c'est que, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes les plus anciens au Canada, figurez-vous. Dans ce sens suivant, c'est que Colombie-Britannique, avec son programme de ressources naturelles, est venu après. L'Alberta, qui est productrice d'énergie, pétrole et gaz, leur institut, qui est un institut mixte de gouvernement, entreprise, université, n'a vu le jour qu'en 76. Eh bien, quand je regarde ça, je dis, après tout, à se comparer, ben, le Québec s'est trouvé un peu en avant, hein, dans cela, malgré qu'il était en retard, parce qu'il aurait dû y penser, effectivement, traiter et travailler, et même tirer un avantage comparatif au niveau de la pensée sur les problèmes des ressources naturelles.
Voilà. Voilà, c'était le troisième de cette série d'entretiens préparés par Gilles Paquet, le dernier la semaine prochaine de ces économistes d'origine néo-québécoise. Il s'agit de Simone Falascakis. L'équipe du magazine économique, d'abord les journalistes, Yvon Laporte, André Breton, Gilles Paquet et Claire Bousquet, les collaboratrices, Martine Hippolyte à Paris et Suzanne Ouellette à Toronto. À la technique, Alain Boursier et Carl Caron. La réalisation du magazine, Mario Cardinal, Louise Carrière et Pauline Arbour. C'est Guy Côté qui vous parle. Bonne semaine.
Radio-Canada.